Donc, on ne va pas faire long aujourd'hui parce que le temps est un peu passé. Alors, les versets que nous avions, que je vous avais dit de, si vous voulez, les avez appris par cœur, je ne sais pas, c'est sur la prière. Alors, comme je l'ai déjà dit, la vie chrétienne sans prière n'est pas vraiment la vie chrétienne. On est toujours, notre vie chrétienne est à la hauteur de nos prières. C'est notre consécration à Dieu. C'est le temps que l'on consacre à prier, à chercher la face de Dieu. Alors, le premier verset, 1 Thessaloniciens 5, 17. Celui-là, vous le connaissez par cœur, je suis persuadé. Romu, tu régris de le dire. Vas-y. Voilà. C'est prier sans cesse. C'est le quoi que vous fassiez, en quelque endroit que vous soyez, vous avez toujours des occasions de prier, de dire Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te prie pour les âmes perdues. Seigneur, je te prie pour un tel, pour une telle. Vous faites la vaisselle, vous êtes dans le métro, vous êtes en train de faire une photocopie, vous avez n'importe quelle action, vous pouvez élever votre pensée vers Dieu et dire Seigneur, je te prie pour le frère, je te prie pour la sœur, je te prie pour un tel, pour une telle, je te prie pour le monde perdu, je te prie pour l'Église, je te prie pour que ton nom soit glorifié. Vous pouvez partout. Vous pouvez prier. C'est comme cela, prier sans cesse. C'est-à-dire que vous avez toujours des occasions de prier. Vous posez les regards sur quelqu'un, vous êtes dans le métro, vous priez pour cette personne. Vous voyez les gens qui attendent, vous priez. On a cette responsabilité d'intercéder pour un monde perdu. Et la responsabilité de prier aussi pour les frères et les sœurs. Pour que leur foi tienne ferme, pour qu'ils soient encouragés, qu'ils soient soutenus. La prière est un combat. Si vous ne comprenez pas que la prière est un combat, alors vous n'avez pas encore compris vraiment ce qu'est la prière. La prière, c'est un combat. Et le premier combat que l'on a dans la prière, c'est contre soi-même. Le premier ennemi que nous avons contre nous dans la prière, c'est nous-mêmes. C'est pas le diable, hein? Le premier. Il est sans doute le deuxième, mais le premier, c'est nous-mêmes. Combien de fois nous avons l'occasion de prier et nous ne prions pas? Parce que nous n'avons pas envie, parce que nous n'en voyons pas la nécessité, parce que nous avons des multitudes de bonnes raisons. Mais les bonnes raisons, eh bien, elles ne sont pas suffisantes pour nous empêcher de prier. C'est prier sans cesse, ça veut dire vraiment prier sans cesse. Nous avons toujours des occasions de prier et de nous approcher de Dieu. Nous ne sommes pas comme le peuple d'Israël qui avait besoin d'aller au temple. Nous pouvons prier partout, partout. Bon, je pense que les Juifs pouvaient prier partout aussi. Mais c'était pour eux, ils avaient un lieu quand même qui était dédié à la chose. Ensuite, le deuxième verset, c'est Matthieu 26, 41. Alors, vous rappelez, hein, Matthieu 26, c'est le jardin de Gethsémané. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au jardin de Gethsémané? Le verset.
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Voilà. Veillez et priez. On est bien disposé, mais la tentation arrive et nous prend à l'improviste. Si nous n'avons pas prié, si nous n'avons pas remis les choses entre les mains de Dieu. Je pense que la première chose que nous devons faire quand nous commençons une journée, c'est de prier. Vous n'êtes même pas levé. Vous avez votre réveil à sonner. Vous êtes. Tâchez de ne pas vous rendormir. Mais, parce que ça m'est arrivé. Mais je vous dis ça par expérience. Mais vous faites en sorte de ne pas. Et vous remettez votre journée entre les mains de Dieu. Et vous dites, Seigneur, garde-moi. Protège-moi dans cette journée. Protège-moi de moi-même, d'abord, de mes mauvaises dispositions et de mes mauvaises décisions. Protège-moi de l'ennemi. Fais-moi rencontrer des personnes qui te cherchent et à qui je peux parler. Donne-moi des occasions de te servir et de te glorifier. Vous remettez votre journée totalement. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors faites bien attention. Dès le début de la journée, remettez tout entre les mains de Dieu, parce que c'est une nécessité absolue. Vous ne savez pas dans les secondes qui vont suivre quelle est la tentation qui va être présentée sur votre chemin. Vous croyez-vous que vous êtes tranquille chez vous et que il y aura peut-être, je sais pas, vous êtes en train de faire chauffer l'eau et de votre café, de votre thé, vous chauffez votre lait, je ne sais pas ce que vous buvez le matin. Et puis vous avez un geste maladroit, vous êtes mal réveillé et oh zut, et vous vous mettez en colère. Vous avez mal commencé la journée. Et vous êtes râlé, vous ronchonnez après vous-même, après le lait renversé, après les choses qui ne se passent pas toujours jamais comme vous voudriez qu'elles se passent. Si vous commencez par remettre votre journée entre les mains de Dieu et vous remercier le Seigneur, vous lui dites: Seigneur, je te rends grâce pour tous les événements qui vont arriver dans cette journée, les bons et les mauvais. Et si bien que quand le lait déborde ou que l'eau se renverse ou que le pain n'est pas assez grillé ou trop grillé ou que je sais pas, les choses sont pas, eh bien, vous avez rendu grâce pour les événements. Déjà, vous avez rendu grâce pour les événements qui vont se passer, les bons et les mauvais. Donc on prépare son cœur en fait dans la prière, hein, et on prévoit les événements qui vont arriver. Et on demande à Dieu de disposer sur notre chemin toutes les choses qui vont servir à sa gloire dans notre vie. Et ça, c'est une très très bonne habitude. Ça ne doit pas devenir une habitude dans un sens de formalisme, mais ça doit être une habitude quand même. On doit passer du temps dans la prière et le début de la journée, eh bien, on présente tout entre les mains de Dieu et on dit: Seigneur, tout est dans ta main. Utilise-moi et que vraiment je sois un objet de bénédiction pour les gens que je rencontre, partout où je vais. Ensuite, Jean 16, verset 24. Oui. Celui qui l'a, hein, le lit, hein.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
Voilà. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur Jésus n'était pas connu. Il y avait une révélation du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Mais il n'était pas venu encore sur la terre d'une manière visible comme il est venu dans la personne du Seigneur Jésus. Donc quand les gens ne priaient pas l'ange de l'Éternel, parce que c'était le Seigneur Jésus, hein, je ne vais pas rentrer dans plus de détails là-dessus, mais les gens ne l'ont pas prié, ils priaient Dieu. Voilà. Mais il dit: priez en mon nom. Vous n'avez jamais prié en mon nom. Maintenant, priez en mon nom. C'est-à-dire que quand on prie, c'est la prière du Seigneur Jésus que l'on prie. On fait les choses en son nom, comme si c'était lui qui le faisait. Alors, si on prie en son nom, on ne prie pas n'importe quoi en son nom. Si, par exemple, je parle au nom d'une personne, c'est-à-dire que cette personne m'a délégué pour dire certaines choses. Par exemple, vous êtes dans une réunion officielle et vous donnez procuration à une personne pour qu'elle parle en votre nom. Voilà, vous dites: dans cette réunion, je ne peux pas y être, mais je vous donne procuration et vous direz ceci et cela et telle chose et telle chose. Et vous n'y êtes pas, mais la personne parle en votre nom. C'est comme si c'était vous qui parliez, mais c'est cette personne qui parle. Hein? Vous comprenez bien cela? C'est quelque chose qui se fait dans la vie officielle et dans n'importe quelle réunion de conseil et de choses. Eh bien, on donne procuration à une personne. Et le Seigneur nous a donné procuration pour parler en son nom. Et c'est-à-dire demander en son nom. C'est-à-dire les choses qu'il demanderait, eh bien, il nous a délégué pour les demander. Alors, c'est ça. Nous demandons ce que lui veut que nous demandions. Et ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas dans le nom de Jésus-Christ pour gagner au loto ou pour gagner la course de machin chose ou pour toutes ces choses-là. Vous auriez honte de les présenter devant le Seigneur Jésus s'il était devant vous présentement. Hein, voilà, il est là. Et vous le verriez de vos yeux, vous ne parleriez pas de ces choses devant lui. Parce que tout de suite, ce serait évident que ce n'est pas une bonne chose. Mais il est bien présent quand même. Hein. Il n'est pas visible par nos yeux de la chair, mais par nos yeux de la foi, nous le voyons. Et nous savons qu'il est là et qu'il nous écoute. Et quand nous prions en son nom, eh bien on ne dit pas n'importe quoi. On cherche toujours ce qui le glorifie, ce qui va amener plus loin son évangile, la mort qu'il a accomplie sur la croix, notre salut. C'est quand nous prions en son nom, eh bien on prie pour les âmes perdues. On prie pour que notre vie le glorifie, pour que d'autres arrivent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, que d'autres l'honorent, que d'autres le prient. C'est que les cœurs soient bien disposés à le chercher. C'est prier en son nom, c'est notre responsabilité. Le Seigneur Jésus, dans cette parole, donne un commandement. Ce n'est pas quelque chose, si vous avez envie, ou le jour où vous y pensez, mais c'est un commandement. Priez en mon nom. Le verbe est à l'impératif. Hein. Vous avez jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. C'est quand les prières sont faites en son nom. Donc ça, c'est presque le schéma de la prière, de la vraie prière. On demande et l'on reçoit. Il y a des personnes qui ont pris ces paroles au mot et qui ont dit « Je demande, donc je vais recevoir ». Et je vous dis que ces personnes, c'est celles qui ont raison. Si vous avez demandé quelque chose dans le nom du Seigneur, alors attendez-vous à le recevoir. Ça ne veut pas dire que Dieu, vous avez appuyé un bouton, et c'est comme la machine, hein, vous avez mis une pièce d'un euro, vous appuyez le bouton et vous avez votre café. C'est pas comme cela. C'est pas ça, prier en son nom. Ça demande un engagement, ça demande de la foi. Ça demande de la persévérance, ça demande de la continuité, ça demande un désir réel d'obtenir ce que nous avons demandé. Ce n'est pas simplement « aujourd'hui j'ai demandé parce que ça me passe par la tête et puis demain j'ai oublié ». Ce n'est pas cela, prier, vous recevrez. Prier, c'est vraiment prier, c'est un engagement, c'est une consécration vraiment à la chose. Et il y a des sujets que futile qui n'entre pas dans cette considération-là. Par exemple, vous priez pour les âmes perdues. Eh bien, priez pour les âmes perdues. Et priez, et priez, et priez. C'est dans ce cadre-là qu'il est dit que demandez et vous recevrez. Et Dieu vous donne les âmes. Pour que vous ayez l'occasion de parler, que vous ayez l'occasion de les amener même à la foi et à la connaissance du Seigneur Jésus et jusqu'au pied de la croix pour qu'elles puissent être sauvées. On gagne les âmes déjà dans la prière. Et c'est un engagement. La prière est un engagement. On se consacre à la prière. Il y a des personnes qui ont pris ces choses tellement au sérieux qu'elles en ont fait un sujet constant. C'est constamment, constamment, constamment. Elles prient pour les âmes perdues. Et si vous priez pour les âmes perdues, au fur et à mesure que vous priez, Dieu va vous donner un fardeau de plus en plus grand. Et vous allez voir vraiment un monde perdu. Et vous allez vraiment voir des âmes qui ont besoin de l'évangile et qui ont besoin d'être sauvées. C'est le... Quand le Seigneur nous dit quelque chose, eh bien prenez-le bien au sérieux. C'est dit dans la parole de Dieu et nous devons être sérieux dans notre engagement vis-à-vis de ce que Dieu demande. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup de choses pour Dieu, mais elles n'ont pas fait grand-chose avec Dieu. Elles ont travaillé pour la cause de Dieu, mais elles n'ont pas été engagées dans le combat avec Dieu. Et le combat avec Dieu, il est dans la prière. Il commence dans la prière. Et Dieu vous donne des occasions. Il vous donne le privilège d'être les instruments de sa gloire. Mais c'est déjà dans la prière que les choses commencent. Si vous êtes fidèle dans la prière à intercéder pour l'Église, pour les âmes perdues, pour un tel, pour une telle, pour des personnes vraiment que vous avez sur le cœur, alors Dieu va vous donner, comme disaient les anciens chrétiens, il vous donnera votre salaire. C'est-à-dire que vous avez travaillé dans la prière et Dieu vous donne votre salaire, c'est-à-dire la réponse à la prière. Vous avez demandé les âmes sauvées, Dieu vous donnera des âmes sauvées. Mais il faut prier, et il faut intercéder, et il faut lutter dans la prière. La prière, n'oubliez jamais, c'est un combat. Je n'ai pas tout dit sur la prière. Les autres dimanches, on verra d'autres choses sur la prière. Mais ce sont des choses très, très importantes. Ne laissez jamais de côté la prière, parce que c'est un combat, et c'est là que les choses se gagnent ou se perdent. C'est toute la vie d'une église, toute votre vie chrétienne dépendra de votre vie de prière, de votre lecture et méditation de la parole de Dieu aussi, de votre engagement dans l'Église. Mais déjà, ça commence dans la prière. Vous ne serez jamais le chrétien plus élevé que votre vie de prière. Et la prière, c'est un combat, c'est une lutte. Alors nous sommes captivés dans ce monde par des multitudes de choses qui vous prennent. Si par exemple vous êtes devant votre poste de télévision, en train de regarder un film passionnant, la voix de Dieu qui va vous dire prie pour un tel, vous ne l'entendrez pas. Parce que vous êtes tellement captivé, et vous êtes trop captivé, et vous ne pourrez pas vous arrêter et de dire Seigneur, cette âme, ce frère, cette sœur a besoin des prières. Et je te prie pour un tel, pour une telle. C'est malheureusement, notre monde est captivant. Il y a des choses passionnantes dans ce monde. C'est vrai. Mais elles mangent votre temps. Elles mangent votre vie chrétienne. Elles mangent votre vie de prière. Et c'est pour cela que l'Église est si faible et si handicapée, parce que les intercesseurs de l'Église sont en train de regarder la dernière vidéo ou le dernier ceci, le dernier machin, alors qu'ils devraient être des intercesseurs. Des personnes qui luttent dans la prière, qui combattent le bon combat, qui gagnent des victoires dans la prière. Malheureusement, c'est cela. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit: veillez et priez. Soyez vigilants, parce que vous avez des multitudes de choses qui peuvent prendre votre vie de prière. Voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à faire. Bon.